l'actualité des idées aujourd'hui. Le pauvre petit blanc, un mythe américain, alors que la campagne est officiellement lancée avec demain le premier débat télévisé qui opposera les deux candidats, le démocrate Joe Biden et l'actuel président, le républicain Donald Trump. Ceux qui ont porté Trump au pouvoir en 2016 sont-ils toujours motivés par le même ressentiment? La question identitaire va-t-elle peser dans l'élection? Trump parviendra-t-il à nouveau à politiser la colère et le sentiment, comment dire, peut-être d'insécurité culturelle de ce pauvre petit blanc? C'est le terme et la question que pose dans son nouvel essai l'historienne et américaniste Sylvie Laurent. À Sciences Po, elle est professeure et elle revient donc aux sources de ce concept dans Pauvre petit blanc qui paraît aux éditions de la Maison des sciences de l'homme ce mois-ci, en cette rentrée. Bonjour Sylvie Laurent.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Ces mots peuvent déranger un peu, pauvre petit blanc. C'est une formule, un concept que vous avez forgé ou ce sont des mots qui ont été employés?
Non, c'est un concept que j'ai forgé, enfin, à partir des mots très simples de la langue française, mais qui révèle l'ironie épistémologique que je place derrière cette réalité. Pauvre petit blanc, sans pronom, c'est pas un pauvre petit blanc, ça n'est pas un personnage qui existe. Vous parliez dans votre introduction du fait que certaines personnes se sentaient déclassées, appauvries, et qu'elles auraient pu exprimer leur ressentiment en votant pour Donald Trump. Je pense que ça n'est qu'une partie de l'histoire. Et je pense qu'on s'est beaucoup trompé en ayant une lecture essentiellement matérialiste de l'élection de 2016, comme si le déclassement économique avait présidé à cette élection. Et en réalité, derrière ce titre ironique « Pauvre petit blanc », je veux signifier deux choses. D'une part que ceux qui sont les plus pauvres aux États-Unis et qui appartiennent à la classe laborieuse sont en grande partie non blancs, et que penser qu'il n'existe de classe ouvrière que blanche, c'est déjà une réduction du périmètre de la réflexion. Et par ailleurs, que ceux qui se disent dans une forme d'anxiété économique, morale et culturelle ne sont pas en réalité ceux qui sont les plus pauvres sur le strict plan matériel. Et qu'en réalité, l'angoisse d'être dépossédé de ce que l'on a, c'est quelque chose qui anime toutes les catégories sociales de l'Amérique blanche, et que les plus aisés, les possédants, les chrétiens, les hommes, quelle que soit la classe sociale, nourrissent ce sentiment d'être désavantagés, d'être brimés, d'être dépossédés. Et ce sont eux les pauvres petits blancs, ils ne sont pas pauvres et ils le sont d'ailleurs bien moins que les autres qui ne sont pas blancs.
Parce qu'il y a eu un vote blanc en 2016 et ça a été dit, mais il a été souvent rattaché à la question économique et sociale. Vous vous dites c'est pas simplement une affaire de classe, loin de là, c'est aussi une affaire de race. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à s'enfermer dans cette grille de lecture raciale? Est-ce que Trump est pas d'abord, aux yeux de cet électorat de 2016, qu'on retrouvera peut-être cette année, le candidat anti-système, le président aussi des perdants justement de la mondialisation et de cette désindustrialisation?
Mais justement, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure. En réalité, ça n'est pas, enfin, la lecture opposant race et classe, elle est extrêmement simpliste. Et d'ailleurs, elle est plus que simpliste. Ça a été un élément de langage de la pensée conservatrice. Il y aurait le Parti démocrate qui ferait la politique des identités, qui n'en aurait que pour les minorités, et une classe ouvrière dont, une fois de plus, on ne réduit l'identité qu'à sa portion blanche, serait abandonnée et malheureuse. En réalité, ça n'a jamais été le cas. La véritable politique de l'identité, elle a été du côté du Parti conservateur qui a créé une politique de l'identité blanche. Ce qu'a incarné Donald Trump en 2016, dans la continuité de ce qu'avait entamé le Parti républicain depuis très longtemps, c'est une espèce de prise de conscience qu'il existait un patrimoine racial qu'on a euphémisé en patrimoine culturel. On parle de culture blanche, on parle de patrimoine, on parle de l'Amérique telle que nous la connaissons, on utilise des noms de code, nos banlieues, nos habitudes, nos modes de vie, the American way of life, pour signifier en réalité qu'on parle de quelque chose comme un patrimoine racial préservé d'un certain nombre de choses dont on a peur qu'il nous soit enlevé, qu'il nous soit arraché. Et donc ce que je montre dans le livre, c'est qu'en réalité Trump n'a rien inventé, que le plus grand moment de ressentiment racial de la population blanche, c'était dans les années 20 aux États-Unis, lorsque le Ku Klux Klan rassemblait 4 millions de personnes dans les rues et de membres actifs, qui est une période de croissance économique. C'est-à-dire qu'il y a il convient de voir que, évidemment, les périodes de crise telles que celles que nous vivons depuis 2008 a accentuer, à exacerber une forme de vulnérabilité, mais le cœur du réacteur, de ce sentiment de dépossession, il est présent depuis le XVIIe siècle et Trump a juste su l'encliquer avec la crise sociale.
Alors de quoi souffre-t-il ce pauvre petit blanc? De quoi se sent-il victime? Vous mettez en avant deux affects qui, pour vous, sont essentiels pour comprendre la situation encore aujourd'hui. Ils se vivent donc pour des laissés pour compte d'une Amérique, mais ils ont surtout un, peur de la dépossession, et vous parlez d'une deuxième émotion, d'un deuxième affect collatéral, le ressentiment. D'où est-il né?
Alors, pour les prendre chacun dans l'ordre, la peur de la dépossession, je crois que c'est un trait ontologique de la population américaine et qui remonte à l'âge de la plantation, quand l'Amérique était une plantation, une colonie qui vivait de deux choses, qui était le fait d'être un petit îlot colonial européen au milieu de terres indiennes, et que par conséquent, cette espèce de vulnérabilité géographique donnait cette espèce de peur qu'il y ait une révolte des Indiens qui viendrait reprendre ce que Dieu leur avait donné, c'est-à-dire ce petit bout de terre. Et l'autre chose, c'est la peur des révoltes noires. Le fait que nous sommes dans des terres d'esclavage et que le maître blanc a constamment peur, y compris parce qu'il construit le noir comme bête et comme criminel, que la vengeance surgisse des plantations et qu'il soit tué dans la nuit et qu'on lui prenne la source de son pouvoir. Et petit à petit, cette peur ontologique fondatrice s'est transformée et s'est déclinée. Et à chaque fois que le pays a connu une grande période de progrès racial, au lendemain de la guerre civile, au lendemain du mouvement des droits civiques, il y a eu une même réaction consistant à dire « Mais attendez, le progrès racial pour les Noirs, c'est en fait un jeu à somme nulle. Cela signifie que nous nous perdons. »
Il y a eu un retour de balancier.
Exactement. On a commencé à dire « On nous a pris les plantations, on nous a pris le Sud, on nous a pris le confort et cette espèce de monde connu consistant à vivre parmi nous avec nos écoles blanches, nos églises blanches, nos transports publics blancs. » Et ce ressentiment, il a été présent tout le temps, mais activé de manière différente selon les époques et selon surtout la parole politique qui était la plus audible, qu'il s'agisse d'abord des conservateurs, puis des républicains.
Alors y a-t-il un vote blanc? Y a-t-il une pensée blanche? Et surtout, y a-t-il un privilège blanc? Pour beaucoup d'Américains aujourd'hui, cette question n'est plus d'actualité. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire Hello Privilege, It's Me. Et elle, c'est Chelsea Handler. Elle est actrice, elle est humoriste et dans ce documentaire de 2019 diffusée sur Netflix, elle analyse les effets du privilège blanc sur la culture américaine, puis elle se demande aussi de manière assez subjective comment elle en aurait profité.
Bonjour les filles.
Bonjour.
Moi c'est Chelsea, désolée j'ai les mains moites.
Je suis Mallory,
moi c'est Cathy.
Bienvenue dans le comté d'Orange.
Merci de m'accueillir mesdames.
À mon avis, si on commence à parler de privilèges blancs, on doit partir du principe qu'il existe toutes sortes de privilèges pour chaque race, genre ou religion. Être une belle femme est en soi un privilège. Je pense qu'il existe différentes sortes de privilèges et c'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le mot le plus approprié.
Vous pensez que les Noirs ont des privilèges?
Toutes les races en ont, je viens de le dire.
D'accord. Quelles que soient les formes et couleurs.
Mais quel genre de privilèges peuvent avoir les gens de couleur?
On les admet à l'université.
C'est vrai.
D'accord.
Vous ne pensez pas qu'on devrait tous se dire « Donnons un petit coup de main aux gens qu'on a opprimés pendant si longtemps et laissons-les profiter un peu des opportunités dont nous, on profite tous aujourd'hui ?»
Je trouve tout de même qu'on a beaucoup avancé en Amérique.
Oui, on a beaucoup avancé.
On a beaucoup avancé.
Vous pensez qu'il n'y a aucun problème lié à la race dans ce pays?
Ce problème existe, mais il est vraiment insignifiant. C'est le comportement des gens qui en font une montagne qui me gêne.
De nombreux crimes raciaux sont encore commis aujourd'hui, c'est difficile de fermer les yeux là-dessus.
Comment ça, des crimes raciaux?
Par exemple, des Noirs qui se font tirer dessus par des flics?
Je n'ai jamais entendu ça.
Voilà, inégalité, injustice, telles qu'en témoignent ces Américaines. Devant la caméra de Chelsea Handler, Sylvie Laurent, on a beaucoup avancé. C'est presque un problème insignifiant aujourd'hui, ne pas percevoir cette inégalité. Hein. Elles ne les perçoivent plus, en tout cas, c'est ce qu'on entend. Cette victimisation fantasmée que vous évoquez, ce sentiment d'abandon, est-ce qu'il correspond, de perte de privilèges, est-ce qu'il correspond à une réalité?
Ce qui est très intéressant dans l'extrait que vous venez de passer, c'est que On est passé de toute une phase où la question de la domination blanche et de la suprématie blanche était entendue dans des termes extrêmement caricaturaux et en même temps fondés en réalité, qui était l'expression d'une domination légitime des blancs sur les autres par vertu scientifique, politique, morale. Et que ce que j'essaye de montrer, c'est que quelque chose s'est passé dans les années 70, un courant intellectuel profond qui a cherché à poser le paradigme du blanc souffrant en des termes qui étaient post-raciaux. C'est-à-dire que plutôt que dire les blancs sont supérieurs aux noirs, ce qui devient parfaitement inaudible et inacceptable après les droits civiques, ce que l'on dit désormais, c'est après tout les blancs sont des victimes parce qu'elles sont minorisées sur certains aspects et qu'en réalité le progrès de certains, comme je le disais tout à l'heure, se fait aux dépens des autres. Et donc cette espèce de racisme post-racial dont nous venons d'entendre un exemple, elle prend la forme du déni, c'est-à-dire bah écoutez les distinctions de race, tout cela c'est derrière nous, il y a pas tant d'inégalités et tant d'injustices. Et puis d'ailleurs, les blancs ne sont-ils pas eux aussi victimes? Et l'exemple vraiment le plus frappant de tout cela, et je pense d'ailleurs que Chelsea Handler, dans l'extrait que vous avez passé, s'adresse à ses étudiants, c'est sur la question de l'accès à l'université. Aujourd'hui, la majorité des Américains et des étudiants, c'est-à-dire de ceux qui appartiennent à une génération plus jeune, que leurs parents, pensent qu'être blanc est aujourd'hui un désavantage dans l'accès à l'université et l'accès aux bourses. La majorité d'entre eux, à rebours de toutes les données empiriques que nous avons, on sait qu'ils sont surreprésentés, que les enfants de diplômés des grandes universités sont surreprésentés, qu'il y a un avantage absolument chiffré sur la représentation. Mais ils ont cette idée que les politiques d'affirmative action, à laquelle je consacre un chapitre important dans mon livre, parce que c'est vraiment à ce moment-là que l'idée d'une discrimination inversée est entrée dans le débat public.
Les politiques de discrimination positive.
Hein. On a transformé l'affirmative action, c'est-à-dire la mesure héritée des droits civiques visant à lutter contre la discrimination à l'entrée des emplois publics et à l'admission des universités. Ça a été relabellisé, ça a été manipulé et renommée discrimination inversée par les conservateurs. Et l'argument consistait à dire, vous les blancs, ben vous voyez, vous êtes méritants, vous travaillez beaucoup, vous avez de bonnes notes au lycée, et pourtant, vous n'avez pas de place à l'université parce que ces places sont réservées aux noirs. Et c'est cela le racisme post-racial, ou cette espèce d'identité blanche qui se veut être finalement une minorité comme une autre. Elle consiste à dire, nous aussi, nous sommes une minorité. On n'est pas raciste, mais on veut juste, nous aussi, avoir le droit de défendre notre préséance, notre culture, notre petit, quant à nous, d'une certaine façon. Et cela, c'est ce qui a infusé la culture populaire américaine, la culture politique, et Trump n'est autre que l'incandescence de cette parole, consistant à dire, nous ne sommes pas raciaux, nous sommes post-raciaux. Mais néanmoins, est-ce que les blancs ne sont pas les plus méritants? Est-ce que ce ne sont pas eux qui devraient avoir plus et qui perdent le plus dans cette société? Voilà, donc cette rhétorique extrêmement subtile de victimisation, elle est loin de celle qu'on entendait dans le Sud dans les années 60, mais elle vise à la restauration de cette préséance blanche dont ils pensent qu'elle a été perdue.
Vous êtes chercheuse associée dans deux universités aux États-Unis, Harvard, Stanford. Est-ce que vous avez senti ce ressenti, cette rancœur s'installer, infuser, comme vous dites aussi, dans les couloirs de l'université auprès des
étudiants? Écoutez, c'est très simple. Harvard, l'année dernière, a poursuivi des étudiants, une organisation asiatique de Harvard, financée par un Alan Bloom, un néoconservateur qui était déjà derrière le cas Abigail Fisher versus Texas il y a plus de 15 ans, a poursuivi l'université pour discrimination inversée, c'est-à-dire le fait qu'à force de donner du soutien aux noirs et aux hispaniques, et bien les autres, les blancs et les asiatiques qui se sont mis en scène dans ce cas très précis comme des blancs honoraires étaient discriminés. Mais ce thème de la discrimination inversée qui est tellement puissant et brûlant sur la question éducative, en fait, elle s'applique aux différents aspects de la société et les travailleurs blancs aujourd'hui, je reviens à ce que vous disiez au début, mais est-ce que ça n'est pas l'anxiété économique qui, en réalité, on sait, parce que tout ça est parfaitement mesuré, que le sentiment de l'anxiété économique ne devient véritablement notable et ne trouve à s'exprimer sous la forme d'un ressentiment que lorsque les gens ont le sentiment que d'autres qu'eux bénéficient et qu'ils n'ont pas. Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, que tout le monde est coincé dans les embouteillages, vous prenez votre mal en patience. Mais si vous voyez une voiture sur le côté qui passe sur la bande d'arrêt d'urgence et qui va beaucoup plus vite, vous êtes subitement furieux. Et ce qu'on a raconté à l'Amérique blanche, une fois de plus, c'est un discours intellectuel conservateur parfaitement construit, c'est regardez, votre niveau de vie stagne, votre ascension sociale n'est plus celle que l'on vous avait promis, mais ces noirs, ces femmes, ces minorités, elles prospèrent. Et elles prospèrent donc fatalement à vos dépens. Et c'est ce que Trump continue à raconter avec un très grand succès.
Alors, il y a un autre terme que vous racontez, définissez aussi, expliquez dans cet essai, Sylvie Laurent, c'est celui de white lash, qui est une contraction, et qui incarne cette idée, ou qui l'illustre d'une sorte de revanchisme d'une Amérique qui s'est sentie spoliée de ses droits, de ses privilèges aussi. Est-ce que, pour vous, Donald Trump est aujourd'hui le produit de ce white lash?
Ah, mais cela ne fait aucun doute. Simplement ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en réalité, ce qu'il a réussi à faire et ce qui lui est propre, c'est qu'il a réussi à politiser une subjectivité. Le sentiment que parce qu'on est blanc, on est défavorisé dans une société qui désormais est multiculturelle, est ouverte aux minorités, est ouverte aux transgenres, aux homosexuels, et que quelque chose du monde connu est en train de s'évanouir sous vos pieds, ça a toujours été présent puisque ça a été cultivé depuis l'origine. Mais ce qu'a réussi à faire Donald Trump, c'est à lui donner un sens politique en l'explicitant, c'est-à-dire en réveillant en chacun des Américains blancs ce qui était une prédisposition, en particulier chez les Républicains.
Et quelque part en la banalisant, c'est aussi ce que vous montrez, parce qu'ils ne sont pas tous des suprémacistes, ceux qui ont voté pour Donald Trump, loin de là. En votant pour Trump, ils ont porté au pouvoir, racontez-vous, un homme qui incarnait cette reconquête, cette reconquête d'une normalité confortable, en fait. C'est aussi ça.
Le fait que les normes par lesquelles on vit soient collégialement admises comme celles qui dominent, qui sont la norme, qui sont communément acceptées. Et c'est pour cela, par exemple, que la lecture purement matérialiste de 2016, me semble-t-il, méconnaît le rôle du christianisme et la nature profondément religieuse de cette société américaine. C'est une société qui est travaillée par la peur de la déchristianisation, qui correspond à une réalité démographique, hein, bien qu'encore aujourd'hui, 65% des blancs sont encore chrétien, et l'on sait qu'il y a une corrélation parfaite entre le degré de ressentiment racial et le degré d'attachement et de pratique religieuse. Et que, y compris, on parle souvent des évangéliques, mais y compris les catholiques, qui sont 20% de la population, vivent dans cette peur de la déprise. Et cette peur de la déprise des catholiques, elle se trouvait déjà dans les années 80 dans ce qu'on appelait la majorité morale. Et en fait, il s'est passé dans les années 70, qui est vraiment une période clé selon moi, une espèce de conjonction des astres où le ressentiment après l'accession des droits civiques, le rôle des néoconservateurs dans le fait de mettre en avant le valeureux petit blanc des banlieues face aux contre-cultures ou face aux minorités qui s'agitent, et cette espèce d'inquiétude de la droite religieuse qu'on a pu appeler aussi la nouvelle droite, tout ce petit mouvement-là a formé une espèce de syncrétisme visant à dire finalement, pour que le parti conservateur l'emporte dans ce pays, il faut que son interlocuteur soit cet archétype qui n'existe pas. Mais cet archétype, c'est un pauvre petit blanc à qui on a promis le rêve américain et dont il se voit privé parce que d'autres, les bruns, les noirs, les femmes, sont venus lui prendre cette promesse. Et ce ressentiment-là, il a nourri le parti républicain jusqu'à Donald Trump, qui lui l'a, comme je l'avais dit, explicité de façon particulièrement efficace.
Alors Trump ou Obama, premier président noir des États-Unis, et Trump, le premier président blanc. Ça, c'est la formule de l'un de vos confrères, l'essayiste Ta-Nehisi Coates, à propos de l'élection de Donald Trump. Il signait cette formule en 2017. Parce que Donald Trump a été élu en se présentant comme le champion des Blancs, ce n'est évidemment pas en termes de race le premier président blanc des États-Unis. Il y a des précédents d'ailleurs en termes de pensée aussi. C'est bien un pays où la distinction de race a été construite comme la trame matricielle du destin national, écrivez-vous, les États-Unis. Alors quid de Nixon et de Reagan? Ça, c'est deux présidents qui ont, avant lui, importé cette pensée-là aussi, qui l'ont construite et qui lui ont donné sens.
Oui, c'est vrai, ce sont les deux présidents qui filles dont les mandats correspondent à la phase de d'articulation stratégique critique de la pensée conservatrice dont je vous parlais précisément, où différents courants se coalescent pour former cette idée selon laquelle l'électeur idéal, cette espèce de prototype fantasmatique qui serait l'Irlandais américain de la banlieue, qui serait aigri parce que l'ascension économique à laquelle il croyait ne lui est accessible, et plus encore l'agitation des minorités lui est désagréable. Donc ces deux mandats, c'est Nixon qui est celui qui participe le plus avec son thème de la majorité silencieuse, qui, chacun l'entend bien, est la majorité blanche silencieuse, celle qui souffre en silence, parvient à mettre en scène et en politique cette invention-là, en particulier par une politique extrêmement hostile vis-à-vis des politiques d'affirmative action. Il est le premier qui va donner sens à ce thème de la discrimination inversée, et Ronald Reagan, plus encore, lui-même venant de la gauche syndicaliste, qui se présente comme le candidat des petites gens face aux resquilleurs. Et au-delà de ces deux présidences, la culture populaire à cette époque-là a légitimé et normaliser ce raisonnement dont je vous parle et qui peut paraître abstrait. Je voudrais vous en donner juste un exemple, parce que c'est un film que nous avons tous vu. En 1976, qui est l'année qui voit le premier étudiant blanc du nom d'Alan Back poursuivre les universités au nom de la discrimination inversée, parce qu'il est blanc et qu'il se sent discriminé, il y a un film qui sort sur les écrans, qui est le plus grand succès de l'année, qui remportera un Oscar. Et ce film, c'est Rocky. Rocky avec Sylvester Stallone, Sylvester Stallone. Et que raconte ce film à première vue, si on le prend de surface? C'est l'histoire d'un boxeur d'un quartier populaire que rien ne prédispose à la victoire et qui finit par l'emporter. En réalité, quelle est l'histoire de ce Rocky Balboa? C'est l'histoire d'un Italien américain, ouvrier, prolétaire déclassé, qui travaille dans un abattoir, qui n'a pour seul horizon que la boxe, et qui se retrouve à être engagé dans un combat avec un noir bourgeois du nom d'Apollo Creed, qui à la fin du combat se part du drapeau américain et fait le beau. Pendant tout le film, on voit cet Italien américain valeureux, brisé par le système, s'entraîner. On est en plus à Philadelphie, la ville historiquement fondatrice de la démocratie américaine. Il tape dans des sacs de sable, il mange des blancs d'œufs, il court du matin au soir. Rien ne lui est dû. Mais par le mérite, par le travail, par l'effort, il a une chance de l'emporter. Et on évoque l'affirmative action de façon extrêmement explicite. À un moment, il arrive dans son gymnase pour s'entraîner et son vestiaire est pris. On a pris son locker, c'est-à-dire l'endroit où il pose ses vêtements. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, ah mais oui, mais un jeune noir est arrivé. Toi, t'as 6 ans d'ancienneté, mais un jeune noir est arrivé, on lui a donné. Et cette métaphore de l'affirmative action, chacun la comprend. Et la fin du film, c'est ce fameux combat pour le bicentenaire de la nation américaine. Il y a des drapeaux américains partout. Nous avons d'un côté la classe ouvrière italienne-américaine que rien ne prédispose à la victoire et qui est perdue d'avance, qui est brisée. Et de l'autre côté, ce bourgeois noir qui ne s'est jamais entraîné, qui n'a jamais sué transpirer une seule seconde et qui fait le coq et qui finalement, bien sûr, sera battu. Et ce que dit ce film, c'est qu'il y a des vrais Américains. Ceux qui méritent vraiment de s'emparer du drapeau, ce sont ces petits blancs des banlieues, ces petits blancs oubliés qui s'appellent Rambo, qui s'appellent les Italiens américains, les Polonais américains comme Paulie l'entraîneur, et que ces Noirs, à qui tout est dû, qui se croient plus Américains que les Américains, en réalité, ce sont des resquilleurs dans cette ascension américaine. Et Rocky en 76, c'est le moment charnière où un film qui n'est pas du tout raciste, on ne dit pas du tout de mal des Noirs, Rocky lui-même a des copains noirs, c'est pas le sujet, mais porte à une opinion qui n'attendait que ça, le discours selon lequel on peut défendre quand même ceux qui sont les plus valeureux et qui méritent le plus, c'est quand même bien les Blancs, et il faudrait quand même le rappeler.
20 ans plus tard, un ancien conseiller à la Maison-Blanche, candidat à l'investiture, prend la parole, on est en 1996.
Écoutez, nous on parle avec le cœur, on s'intéresse aux gens. Nous sommes la voix des sans-voix. On va aller à Washington et nous serons les lobbyistes de ceux qui n'ont pas de lobby. Le nouveau conservatisme va servir à beaucoup de choses. On va réviser le GATT. On va regagner la souveraineté de notre pays. On parle pour la jeune génération qui va assurer le leadership et qui n'a pas demandé pardon parce qu'elle veut défendre les frontières parce qu'elle veut assurer sa destinée et parce qu'elle ne veut pas que de jeunes Américains obéissent aux ordres de l'ONU.
Alors c'est du Pat Buchanan dans le texte, mais on dirait du Trump en fait. Hein. Et c'est presque un copier-coller les discours de Trump en 2016.
Beaucoup ont vu dans Pat Buchanan le père spirituel de Donald Trump. Et dans, Dieu sait que peu de gens se pressent au portillon pour avoir ce titre-là. Buchanan est y compris le premier à avoir défendu l'idée d'un mur. Il parlait d'une palissade, d'un fence. Il ne parlait pas d'un wall, mais d'un fence à l'époque. Buchanan joue un rôle absolument déterminant. Je vous parlais tout à l'heure des conseillers d'abord de Nixon, puis de Reagan, puis... Donc Buchanan est un de ceux-là. Il s'est lui-même présenté à la primaire pour devenir candidat républicain aux élections. Et il est celui un de ceux qui ont le mieux compris, lui-même est catholique, lui-même vient de cette nouvelle droite dure, l'articulation et le potentiel électoral d'articuler le ressentiment racial avec la peur de l'immigration et le discours sur le protectionnisme économique. Il est un peu un pré-Steve Bannon, si vous voulez, c'est-à-dire comment euphémiser le désir de protectionnisme racial en parlant de la protection des emplois tout en étant très proche des milieux white supremacists, des milieux anti-immigrationnistes dont je parle aussi dans le livre. Et il est un de ceux qui comprend que le Mexicain peut finalement devenir, au même titre que le noir, la source d'une anxiété qui pourrait être politisée à l'avantage du parti républicain. Et le plus frappant, c'est que alors que ses idées sont xénophobes, nativistes, qu'il a droitisé son discours, puis il est revenu à un discours plus raisonnable, et puis qu'il a fréquenté toutes sortes de gens infréquentables, il est invité dans beaucoup d'émissions grand public pour donner son avis. Il est l'image de la normalisation des idées d'extrême droite dans la vie politique.
Voilà, il est la voix des sans-voix aussi.
C'est ce qu'il prétend.
D'entendre ça aujourd'hui, hein. Nous serons le lobby ou les lobbies de ceux qui n'ont pas de lobby. C'est aussi le candidat anti-système, anti-élite. Il va y avoir quand même un tournant dans l'histoire politique américaine. C'est cette présidence Obama. Elle a à vous lire enfantée malgré elle d'un petit monstre, hein, ou d'une contre-révolution, celle du Tea Party. Pourquoi cette présidence a-t-elle accentuer la polarisation, nourrit aussi ce sentiment de discrimination inversée, Sylvie Laurent.
C'est en effet un phénomène tout à fait stupéfiant que cette élection de Barack Obama en 2008. On sait que la nuit de son élection, le principal site d'extrême droite qui s'appelle Stormfront aux États-Unis a littéralement explosé tant les connexions étaient importantes. Et on a par ailleurs une observation longue et fine des sentiments des Américains blancs pendant toute cette période. Et si un Américain blanc sans diplôme au début disons 2007 pouvait se dire tout autant républicain que démocrate de ses sympathies, il devient très massivement républicain à la fin. Ce qu'il s'est passé, c'est deux choses. C'est qu'une population qui, comme je l'ai dit, était prédisposée à voir cette subjectivité victimaire mobilisée, a été d'une certaine façon prise en défaut de contre-argument avec la présence d'une famille noire à la Maison-Blanche, mais plus encore que le contre-discours s'est mis en place très vite, quasiment instantanément. C'est-à-dire que ce que je suggère, c'est que c'est pas tant l'élection de Barack Obama que le discours qui a accompagné l'élection de Barack Obama. Le discours sur l'illégitimité, le discours sur l'appropriation, le soir même de son élection, les commentateurs les plus célèbres, hein, comme Limbo ou Bill O'Reilly parlait sur les ondes du fait que c'était la fin de l'Amérique blanche, que ça y est, on avait perdu quelque chose. Et ce discours de la perte, de la déprise, elle a inondé les radios et les télévisions conservatrices. Si bien que dès 2010, le Tea Party est élu, une fois de plus, pas du tout la revanche des cols bleus, pas du tout des gens déclassés et malheureux, mais une certaine élite chrétienne, blanche, conservatrice, qui voit dans l'élection de Barack Obama quelque chose comme le début de la fin de l'Amérique telle qu'ils la connaissent. Et donc, il y a une idéologie médiatique, politique, conservatrice et culturelle qui se met en place et qui consiste à renforcer les Blancs dans l'idée qu'ils sont en train de perdre leur pays. perdre notre pays. C'est d'autant plus vrai et tangible pour eux que les statistiques démographiques du Census Bureau, qui est l'organisme qui fait les prévisions sur l'équilibre démographique du pays, publie très exactement au milieu du mandat de Barack Obama la prévision selon laquelle bientôt les Blancs seront minoritaires numériquement dans le pays et que déjà les enfants qui naissent aux États-Unis sont davantage noirs et bruns que blancs. Et donc il y a une espèce de panique anthropologique qui est politisée par les conservateurs et qui fait que cette fois c'est sûr, le Parti républicain deviendra une fois pour toutes le Parti de l'homme blanc.
Éteignez votre portable.
S'il vous plaît, ne vous approchez pas de moi.
Vous ne prenez pas de photos, j'appelle les flics.
Please call the cops.
S'il vous plaît, appelez les flics.
Je vais leur dire qu'il y a un afro-américain qui menace ma vie. Il y a un homme afro-américain, je suis à Central Park, il est en train de me filmer et de me menacer, ainsi que mon chien. Je suis menacée par un homme, s'il vous plaît, envoyez les flics immédiatement.
La panique de cette femme dans Central Park à New York qui se sentant menacée par un autre promeneur afro-américain lui demandant de tenir son chien en laisse appelle de manière presque hystérique la police et lui demande de venir la protéger. Cette vidéo de cette américaine, de cette new-yorkaise a fait le tour des réseaux sociaux. Elle est peut-être anecdotique mais elle est aussi révélatrice de tout ce que vous racontez, c'est-à-dire des ravages de cette posture du pauvre petit blanc. On entend là la peur comme un espèce de retour du refoulé, de cette menace ressentie, de cette insécurité culturelle. Vous le disiez, Donald Trump en a fait le cœur aussi de son projet, de sa campagne en 2016, avec son Make America Great Again. On est aujourd'hui en 2020, il revient avec un nouveau slogan, Keep America Great Again. Est-ce qu'il a réussi son pari? Est-ce qu'il a rendu cette fierté à cet électorat qui se sentait victime?
Alors, si l'on en croit les sondages, il n'a pas perdu de soutien d'électeurs, ce que l'on a appelé sa base, c'est-à-dire les 40% d'Américains blancs qui pensent que il est leur champion, il est leur porte-voix, il est celui qui va restaurer l'Amérique blanche telle qu'il la fantasme. Il y est parvenu. La question, le véritable enjeu, ça n'est pas ces 40% d'irréductibles qui voteront pour lui, mais qu'en est-il de ces 15-20% d'électeurs qui changent d'avis, qui ont pu voter pour Obama en 2008 et puis pour Trump en 2016, qui sont des gens dont la prédisposition au ressentiment racial est très élevée, mais qui ensuite peut changer d'avis en fonction de ce qui lui apparaît comme l'impératif politique du moment. Est-ce que cet électorat-là sera sensible à sa prose et à ses promesses en 2016? Est-ce qu'elle a senti que quelque chose allait mieux? Les chiffres économiques comme les chiffres sociaux sont consternants, enfin sont confondants. Donc on ne pourra pas s'appuyer là-dessus. Mais néanmoins, l'espérance de restaurer une préséance et une distinction. J'aime beaucoup cette idée de la distinction blanche, plus que le privilège qui a été beaucoup galvaudé. Est-ce que ce désir d'avoir cette distinction rétablie et renormalisée présidera à sa réélection? C'est une question qui devra être abordée au lendemain du vote.
Ces derniers mois, le slogan Black Lives Matter a repris et redonné de la voix avec les affaires de meurtres qui ont pu se succéder d'Américains, Afro-Américains, victimes de violences policières. On peut imaginer que le contre-slogan « White Lives Matter », la vie des Blancs, compte aussi à commencer à frémir ou à se réveiller dans le cœur de certains. Est-ce que cette année encore, est-ce que cet automne, pour vous, Sylvie Laurent, et on terminera là-dessus, le vote aura encore une couleur?
Le vote a toujours eu une couleur, la politique a toujours eu une couleur, aux États-Unis tout a une couleur. Mais vous parliez de « White Lives Matter », dont je parle en effet dans le livre. C'est le nouveau slogan de la droite extrême qui se normalise aux États-Unis. Et sans surprise, le président Trump lui-même a régulièrement retweeté des messages sur les vies blanches comptent, comme si vie blanche, vie noire, tout ça finalement c'était très équivalent, comme s'il n'y avait l'injustice n'avait pas une couleur. Donc la réponse c'est oui, le vote a une couleur forcément, mais l'injustice aussi en a une, et il serait bien de ne pas l'oublier.
Merci beaucoup Sylvie Laurent.
Merci à vous.
Pauvre petit blanc, votre nouvel essai vient de paraître aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Merci à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Jean Bulot qui a programmé et préparé avec Laura Dutèche-Perret cette Grande Table des idées. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très précieuse. À la réalisation, Thomas Beau avec Jean Frédérix. Très bel après-midi sur France Culture.